Bienvenue dans The Debate. Posez-vous cette question, d'apparence assez simple. Manger un plat traditionnel en famille, est-ce que ça fait de vous un être culturé au même titre que, je ne sais pas, lire un traité complexe d'Emmanuel Kant ou étudier une symphonie de Beethoven?
Historiquement, la réponse institutionnelle, c'était un non catégorique.
Exactement. La culture, c'était l'élite, les beaux-arts, l'abstraction pure. Mais aujourd'hui, on va vraiment plonger au cœur d'une fracture intellectuelle assez fascinante en analysant les concepts du texte de Félicité Amaneia-Ravassan, qui s'appuie lui-même sur une réflexion fondamentale de Federico Maior.
C'est ça.
La question centrale de notre discussion aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la culture est cette force d'élévation exigeante, ce sommet qui transforme l'individu à travers les grandes œuvres de l'esprit, ou bien
est-elle le reflet organique, descriptif et quotidien des modes de vie de toute une société? Parce que c'est une tension conceptuelle qui dépasse très largement le simple cadre théorique. Hein. Ce que Meyer et Vincent mettent en lumière ici, c'est la définition même de notre condition humaine. En fait, est-ce qu'on est défini par nos sommets exceptionnels ou par notre socle commun?
C'est exactement le cœur du problème. Et donc, pour poser les bases de notre échange, moi, je défendrai la perspective selon laquelle la culture, dans son sens le plus puissant et le plus transformateur, c'est la quête d'un sublime qui exige de l'effort et de la discipline.
Et de mon côté, je soutiendrai la conception complètement opposée, à savoir que la culture est avant tout une réalité vivante, globale, incarnée dans le quotidien de l'humanité entière.
Très bien. Alors, pour bien comprendre ma position, j'aimerais qu'on utilise une analogie. Quand on examine ce qui maintient un être humain en vie, on observe des fonctions totalement automatiques. Respirer, digérer, marcher. Ce sont des actes d'une fluidité parfaite, ils sont intégrés à notre nature et on les accomplit sans même y penser. C'est fondamental pour survivre, évidemment. Mais ensuite, il y a l'alpinisme.
L'alpinisme?
Oui, l'alpinisme. Gravir une montagne, c'est choisir délibérément de s'arracher à cette planéité confortable. C'est imposer à son corps et à son esprit, d'ailleurs, un effort colossal, une friction douloureuse pour atteindre un sommet où l'air se raréfie, certes, mais où la perspective devient transcendante. Et si on lit attentivement le texte de Vincent, la première définition de la culture correspond exactement à cet alpinisme.
D'accord, je vois.
La culture, elle concerne la philosophie, la grande littérature, les arts majeurs. Elle requiert, et c'est le mot utilisé, une initiation. On ne naît pas en comprenant instinctivement les nuances de l'existentialisme, vous voyez. On doit éduquer son esprit pour y accéder. Et c'est ce mécanisme d'effort cognitif qui donne à la culture sa fonction première, non pas de décrire l'homme tel qu'il est, mais le forcer à se dépasser. Voilà.
Je vois tout à fait où vous voulez en venir avec cette image de l'alpinisme. C'est poétique, hein, c'est séduisant, mais je vous arrête tout de suite. Cette analogie, elle fausse notre analyse d'emblée.
Ah bon ? En quoi ?
Parce que vous présupposez que les actes du quotidien, donc la culture organique dont parle la deuxième partie du texte de Vincent, seraient comparables à la simple respiration biologique. Et ça, c'est une erreur de catégorie majeure.
Je ne dis pas que c'est purement biologique, je dis...
Laissez-moi préciser, parce que la transmission d'une culture populaire n'a absolument rien d'un automatisme passif. Prenons Federico Maior, qui est cité dans le texte. Il faut se rappeler qu'il a été directeur général de l'UNESCO dans les années 90. Et c'est une période où l'institution a justement commencé à basculer de, disons, la simple protection des vieux monuments en pierre vers la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel.
Oui, le patrimoine vivant.
Exactement. Le texte souligne que la culture, ce sont les langues que nous parlons, les plats que nous cuisinons, les rites que nous transmettons. Ces éléments-là, ce ne sont pas de simples respirations automatiques. Ils contiennent en eux des siècles d'adaptation, d'ingéniosité collective, de survie face aux famines ou aux guerres, quoi. C'est une force qui ne juge pas l'individu sur ses capacités d'abstraction intellectuelle solitaire, mais qui raconte l'histoire vivante et charnelle d'une communauté entière.
Attendez. Si on suit votre logique jusqu'au bout, elle est où la limite? Enfin, je veux dire, si tout acte de survie collective ou de tradition quotidienne est de la culture, alors le simple fait de faire bouillir une pomme de terre selon une recette locale a exactement la même valeur culturelle que de concevoir la Déclaration des droits de l'homme.
Vous caricaturez un peu, là.
Non, non, je pose la question des critères. Je ne nie pas du tout la richesse des traditions communautaires, ni l'ingéniosité dont vous parlez. Évidemment qu'il y en a. Mais ce que je questionne, c'est le mécanisme de transformation. Le texte de Vincent insiste lourdement sur ce terme d'initiation. Et comment ça fonctionne, une initiation? Quand vous lisez un texte philosophique ardu, la friction que vous ressentez n'est pas qu'une difficulté passagère. C'est votre cerveau qui est littéralement forcé de créer de nouvelles catégories conceptuelles. Et je suis convaincue que ce dépassement individuel, c'est le seul moteur capable d'empêcher une civilisation de stagner. Si on dilue le concept de culture pour y englober chaque habitude de vie, est-ce qu'on ne perd pas l'exigence qui pousse justement l'humanité vers ses plus hauts accomplissements?
Mais la société ne stagne pas lorsqu'elle transmet ses rites. Elle évolue, elle s'adapte, elle intègre de nouvelles influences de manière totalement organique. Et puis, je sais très bien ce que beaucoup de nos auditeurs se disent en ce moment en écoutant votre défense de la culture du sublime.
Et que se disent-ils?
Ils se disent « c'est une vision incroyablement élitiste ». Et honnêtement, ils auraient raison. Le problème de votre approche, de cette insistance sur le dépassement cognitif ardu, c'est qu'elle exclut de facto 99% de l'humanité à travers l'histoire, quoi.
C'est un peu fort comme accusation.
Mais regardons le texte source. Il affirme très clairement que la culture vécue ne juge pas, mais raconte. Votre vision, en revanche, elle passe son temps à juger. Elle établit une hiérarchie stricte, vous voyez. Celui qui maîtrise la métaphysique est élevé, celui qui maîtrise l'artisanat local ou une langue vernaculaire est juste ordinaire.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
En fait, vous réservez le mot culture à une poignée d'initiés. Pour utiliser une autre métaphore pour contrer la vôtre, vous transformez la culture en un musée silencieux que l'on visite avec respect. Alors que la culture organique, bah, c'est la maison dans laquelle l'humanité habite et interagit au quotidien, tout simplement.
Alors, cette opposition entre le musée et la maison est très intéressante. Mais c'est précisément là que votre métaphore atteint ses propres limites.
Ah oui.
Oui. Que se passe-t-il dans une maison si personne n'a jamais étudié l'ingénierie, la physique ou l'architecture pour concevoir un toit qui ne s'effondre pas sous la neige?
Bah, c'est habile.
Bah oui, les architectes qui se plongent dans des équations complexes font ce travail d'abstraction pour que la maison puisse tenir debout. Maintenir un standard d'excellence littéraire ou philosophique, ce n'est pas une exclusion malveillante ou un jugement moral contre les habitants de la maison. C'est la préservation d'un idéal aspiratoire.
Mais pourquoi l'idéal serait seulement abstrait?
Parce que dire qu'un traité de philosophie porte un poids analytique fondamentalement différent d'une recette de cuisine traditionnelle, ça n'enlève aucune dignité à celui qui cuisine. C'est simplement reconnaître avec lucidité que l'esprit humain est capable de construire des architectures conceptuelles qui tirent toute la société vers le haut. Le sublime ne sert pas à écraser l'ordinaire, il sert à lui donner une direction. Sans ces phares intellectuels, une société peut tout à fait s'enfermer dans des traditions locales mortifères ou oppressantes, sous prétexte qu'elles sont soi-disant organiques.
Bon, je vous accorde ce point sur le danger des traditions qui s'enferment sur elles-mêmes. C'est vrai, c'est un argument pertinent. Cependant, et c'est là que le bât blesse, vous présumez que l'architecture conceptuelle dont vous parlez offre systématiquement une compréhension plus élevée ou plus directrice de l'humanité que les pratiques incarnées.
Dans une certaine mesure, oui. Et comment fonctionne réellement la fabrication du sens dans une société humaine? Ce n'est presque jamais par le haut, par des traités philosophiques. La philosophie est une façon de raconter le monde, oui. Mais la transmission d'une langue maternelle avec toute sa musicalité, avec son vocabulaire souvent intraduisible, qui reflète le rapport intime d'un peuple à son écosystème, bah ça en est une autre.
Je ne dis pas que la langue n'a pas de valeur. Et psychologiquement, anthropologiquement, cette transmission construit l'identité humaine avec une puissance que Kant ne pourra jamais, jamais égaler. Le texte met en lumière cette omniprésence. Exclure délibérément la cuisine, les rituels ou la langue du cœur de la culture sous prétexte que ça manque, je vous cite, d'architecture analytique, c'est assécher notre compréhension de ce qui nous fait tenir ensemble. Le tissu conjonctif de l'humanité n'est pas fait d'équations intellectuelles, il est fait d'habitudes partagées.
D'accord, d'accord. Alors changeons d'échelle un instant et regardons précisément ce tissu conjonctif. Analysons le rôle de la culture dans un monde globalisé, lorsque différentes sociétés, avec leurs fameuses habitudes partagées très divergentes, entrent en collision.
Très bien.
Comment ces deux visions de la culture opèrent-elles pour nous relier? De mon point de vue, c'est très précisément là que la culture du sublime prend absolument tout son sens. La poursuite des grandes œuvres universelles crée ce que j'appellerais un terrain d'entente transcendant. Quand un universitaire brésilien et un chercheur japonais étudient tous deux les principes mathématiques ou débattent d'une tragédie classique, ils transcendent immédiatement leur clivage géographique.
Oui, enfin, ils partagent un code académique.
C'est plus qu'un code. l'excellence intellectuelle agit comme une monnaie universelle. Elle unit l'humanité non pas dans ce qu'elle a de plus basique ou de plus localisé, mais dans ce qu'elle a de plus universel. C'est cet effort partagé vers la compréhension du complexe qui permet de construire des institutions mondiales. Le droit international, par exemple, ne repose pas sur des recettes de cuisine partagées, à ce que je sache, mais bien sur une architecture conceptuelle commune.
Monnaie universelle, c'est une formulation qui sonne bien, c'est sûr. Mais il faut être très, très prudent avec ce concept.
Pourquoi donc ?
Parce qu'historiquement, et de nombreux critiques l'ont souligné bien avant nous d'ailleurs, cette monnaie universelle de la haute culture a très souvent été une monnaie imposée. Quand on prétend qu'un certain standard d'excellence est universel, on masque bien souvent le fait qu'il s'agit simplement du standard d'une culture dominante qui s'érige en norme absolue pour absolument toutes les autres.
C'est un risque, oui, mais ça n'invalide pas la quête de l'universel.
Mais Federico Maior et l'UNESCO l'avaient parfaitement compris, ça. Avez-vous envisagé que c'est précisément dans la reconnaissance de nos différences les plus quotidiennes, les plus prosaïques, que réside la véritable union ? Le texte que nous analysons apporte une réponse lumineuse à ça. Il dit, et je cite, « Comprendre la culture de l'autre, c'est déjà reconnaître son humanité. »
Oui, mais comment on la comprend ?
Eh bien, par quel mécanisme cognitif reconnaît-on profondément cette humanité ? Ce n'est certainement pas en débattant d'un concept abstrait. C'est par la commensalité, le fait de partager un repas. C'est en observant avec un respect sincère le rite funéraire de l'autre. Pourquoi ? Parce que le partage sensoriel et rituel contourne nos biais cognitifs. Il déclenche une empathie évolutive directe. Vous parlez de droit international, très bien. Mais le droit international est extrêmement fragile s'il n'y a pas au préalable ce passage organique entre les peuples. L'union ne se fait pas en regardant tous vers le même sommet abstrait, mais en acceptant d'entrer dans la cuisine et le quotidien de l'autre.
C'est un renversement de perspective assez fascinant. Je conçois tout à fait que partager le quotidien déclenche une empathie immédiate. Cette fameuse chaleur humaine qui contourne nos défenses, comme vous dites.
Exactement.
Mais soyons concrets deux minutes. La simple observation ou l'imitation des habitudes de vie d'autrui suffit-elle réellement à forger un lien profond face aux grandes crises mondiales ? Si on s'en tient à la surface, manger un plat épicé à l'étranger ou assister à une danse folklorique, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un simple relativisme touristique ?
Oh là là !
Si, c'est de la consommation d'exotisme, ça. Ce n'est pas de la connexion profonde. Pour relier véritablement les consciences, comme le réclame d'ailleurs la conclusion de notre source, nous avons besoin de partager des idéaux. L'empathie déclenchée par le quotidien est une belle étincelle, d'accord, mais c'est la confrontation rigoureuse des idées, dont la culture du sublime, qui permet de bâtir les ponts dont nous avons besoin. Vous avez besoin de la philosophie de l'altérité, de textes de loi complexes pour garantir que cette empathie ne s'évapore pas à la toute première crise politique. Non, le quotidien raconte l'homme, oui, mais seule la culture de l'effort le protège et l'élève durablement.
Réduire la culture organique à du relativisme touristique, franchement, c'est passer complètement à côté du propos de Vincent et de Maior.
C'était une provocation assumée.
Oui, je m'en doute. Mais le touriste, il vient, il consomme l'esthétique du rite et il repart. La culture organique, elle exige qu'on comprenne le mécanisme intime de survie d'un peuple. Un rite, ce n'est pas un spectacle folklorique, c'est un condensé de mémoire. Il raconte le rapport de ce peuple à la terre, ses traumatismes historiques, sa façon de structurer la solidarité, quoi. Reconnaître l'humanité de l'autre à travers ses pratiques vécues, c'est pas faire du tourisme. C'est l'acte de décentrement intellectuel le plus puissant qui soit, en fait. C'est accepter qu'il existe d'autres manières valides d'organiser l'existence humaine sur cette planète. Ces ponts institutionnels que vous appelez de vos voeux avec vos lois complexes et vos idéaux universels, ils s'effondrent systématiquement lorsqu'ils ne sont pas ancrés dans le respect scrupuleux des réalités vécues par les populations locales. Le texte nous indique que la culture est un lien, un passage entre les mondes. Et ce passage, il ne se construit pas dans les nuages de l'abstraction pure. Il se construit en marchant sur le sol boueux de la réalité, en comprenant que la façon dont une société organise son quotidien est en soi une philosophie en action.
Une philosophie en action. Je dois admettre que c'est une manière très robuste de réhabiliter le quotidien. Nous touchons là vraiment au cœur philosophique de notre échange. Le texte de Félicité Amaniérara, Vincent, qui est riche de ces doubles définitions, nous oblige au fond à faire un choix de lecture, ou du moins à assumer nos priorités. Il est temps, je crois, de résumer nos positions respectives.
Je suis prêt.
À la lumière de notre débat, moi je maintiens que si la culture doit conserver un pouvoir véritablement transformateur pour nos sociétés, elle doit protéger cette dimension d'exigence, d'initiation et d'élévation. Ma métaphore de l'alpinisme me semble toujours cruciale. L'humanité a un besoin vital de ses sommets, de ses œuvres majeures de la pensée et de l'art. Elle ne se contente pas de nous décrire, elle nous provoque, elle nous bouscule par l'effort qu'elles exigent. Sans la préservation de ce sublime, l'esprit humain risque tout simplement de s'assoupir dans le confort de ce qu'il connaît déjà.
Et pour ma part, je persiste à voir la culture à travers ce prisme vaste, vital et organique. Ce n'est pas un sommet réservé à ceux qui ont le temps et les moyens de s'isoler pour l'escalader. C'est l'air que l'humanité entière respire. Elle est incarnée, omniprésente, tissée dans nos langues, dans les savoir-faire de nos artisans, dans la manière dont nous partageons notre nourriture, voilà. C'est en reconnaissant cette trame du quotidien, qui ne juge pas l'individu sur son érudition, mais raconte l'histoire vivante et globale des peuples, que nous pouvons véritablement comprendre l'épaisseur de notre condition humaine. L'effort n'est pas absent, il est juste collectif et silencieux.
Cependant, je note que malgré la rudesse de notre désaccord sur la définition première de la culture, il apparaît très clairement que nos deux perspectives convergent vers la conclusion ultime du texte de notre source. Nous nous accordons, au moins, pour affirmer que la culture, qu'elle soit pensée comme un idéal vertigineux à conquérir ou comme un vaste héritage humain à habiter, n'est jamais un luxe superflu ni une simple habitude mécanique. Elle est, fondamentalement, une structure de liaison.
Tout à fait. L'idée forte de Maier que l'on retrouve ici, c'est que la culture est un passage entre les mondes, entre les peuples, entre les consciences. C'est vraiment sa capacité à relier les êtres qui constitue sa fonction ultime. Comprendre profondément la culture de l'autre, c'est l'acte fondamental par lequel nous validons son humanité.
Ce lien essentiel se forge. Je reste convaincu que c'est par l'effort partagé vers l'excellence intellectuelle, par cette friction vers des concepts supérieurs, que nous relions nos consciences de la manière la plus solide et la plus protectrice.
Et je continuerai de défendre que c'est par l'accueil inconditionnel et la reconnaissance mutuelle des pratiques humaines organiques, sans aucune volonté d'imposer une hiérarchie ou un standard universel abstrait, que ce fameux passage entre les mondes devient réellement praticable pour tous.
L'analyse de Félicité à manière à Vincent nous laisse, en fin de compte, face à un défi intellectuel fascinant. Plutôt que de choisir un camp de manière définitive, l'enjeu pour nos sociétés modernes est sans doute de comprendre comment faire coexister la rigueur intellectuelle nécessaire à l'initiation avec la reconnaissance vitale de nos traditions quotidiennes. C'est un équilibre dynamique, une tension constante. Après tout, et c'est peut-être la meilleure façon de concilier nos deux approches, l'acte de respirer profondément au niveau de la mer n'est-il pas, au fond, la seule préparation valable pour espérer un jour survivre à l'ascension de la montagne ?